sur la route 66. L'émission est Roots sur Radio RDL, 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Certains matins, on se lève d'un pas chancelant en posant lourdement le pied gauche sur la télécommande qui, en plus de nous tordre un orteil, met en branle notre poste de télévision. Ce dernier nous dévoile alors la mine déconfite de Jean-Jacques Bourdin, interrogeant un politicien aussi peu engageant qu'engagé, ou pire encore, quoique, les images de la dernière opération de chirurgie esthétique de Pamela Anderson. C'est alors, dans ces moments-là, qu'après avoir enfilé à l'envers sa robe de chambre maculée d'extraits du Bloody Mary de la veille, on se dirige vers sa kitchenette afin de tenter d'y réchauffer un mauvais jus de chaussette datant du week-end passé, puis de tenter d'y faire dissoudre un morceau de sucre douteux, remué avec une brosse à dents au curieux relent de nicotine. Jusqu'à là, tout va bien. Mais alors que nous nous apprêtons à déguster notre breuvage, le carillon résonne. Nous ouvrons, d'un geste nonchalant, la porte d'entrée nous dévoile la postière, rapidement prise de panique lorsqu'elle découvre que nous avons oublié de nouer la ceinture de notre robe de chambre, mise à l'envers et constellée de taches de Bloody Mary de la veille. La préposée nous tend alors un paquet de relances de factures et jusqu'à là, tout va vraiment très bien. Puis, émanant du tas, une enveloppe plus grosse que les autres émerge, nous l'ouvrons. Béate surprise, nous découvrons alors l'album Ding Dong, premier opus du duo Bad Juice, déjà auteur d'un diptyque de 45 tours qui fait la fierté de tous ses possesseurs. La main tremblante, nous tentons d'ouvrir le tiroir de notre lecteur CD, et miracle, nous y parvenons. Là, rien ne va vraiment plus. Notre corps est soumis à une rafale de guitare aussi acérée que saturée, mêlée à d'incessantes et étourdissantes parties de batterie. Bad Juice, c'est Brian Setzer qui s'aventure dans l'univers de Quentin Tarantino, c'est les Coasters qui font du pied aux Ramones. Bad Juice, c'est la claque du mois de novembre 2016. Et c'est le groupe qui est notre invité du jour. The One and Only Hillbilly Urban Blues Two Man Band qui va nous rappeler la face que nous préférons de l'Amérique en ce jour de gueule de bois. Celle qui déambule sur la route 66.
De la chair et des os.
Vous êtes à l'écoute de Route 66 sur le 103.5 FM et le www.rdl68.fr. Et nos invités du jour sont donc les deux membres du groupe Bad Juice. J'espère que je le prononce bien, j'ai la voix un petit peu pâteuse en cette journée. De Gueule de Bois, comme je le disais, le premier morceau que nous avons passé est Pornocratie. Nous le disions en antenne, qui pourrait justement très bien coller à l'actualité. Mais nous allons tout de suite effacer tout cela d'un revers de la main et évoquer non seulement le groupe, mais également la sortie de son premier album qui s'appelle Ding Dong. Tout d'abord, David et Thomas, bienvenue à vous.
Merci beaucoup. Merci de nous inviter. Salut.
Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez simplement un petit peu nous parler? On ne va pas dire que vous connaissez depuis longtemps, forcément, tout le monde le sait, vous êtes frère. Mais la manière dont l'amour de la musique vous est venu, était-ce quelque chose qui s'est déclenché en même temps, ce qui vous concerne, ou alors est-ce que c'est venu à des moments différents?
Le truc, c'est qu'on a baigné dedans très très jeune. Bon, on ne s'est pas vraiment posé la question de l'amour de la musique, parce que la musique était présente dans nos vies depuis qu'on est gamin. C'est-à-dire que mon père... Enfin, notre père, excuse-moi, notre père écoutait tout le temps de la musique, de la folk, du blues, du rock. Et ça fait partie intégrante de notre éducation, on va dire. Donc, il était parfaitement normal à un moment donné de pas seulement d'en écouter, mais d'en faire. Et puis, on en a fait ensemble en même temps, quasiment. Ouais. Moi, je me suis mis à la batterie, Thomas s'est mis à la guitare. Et puis, voilà, puis on fait de la musique ensemble depuis qu'on est gamin, quoi.
Et malgré tout, vos premières expériences, on va dire plus sérieuses, musicales, vous les avez réalisées séparément, ou alors est-ce que là aussi, ça a été à chaque fois des collaborations entre vous?
On a toujours joué ensemble.
On a toujours joué ensemble. En fait.
D'accord.
Donc, le premier groupe sérieux dans lequel on a joué, ça s'appelait Tommy Knockers, avec qui on est parti à Bourges, en 98. J'étais déjà à la guitare, David était déjà à la batterie.
Bon, il y avait on chantait pas. Hein.
On chantait pas. Et voilà. Et donc par la suite, on a continué à jouer ensemble.
Oui, notre première expérience de musicale ensemble, c'était dans ma chambre. C'était nos voisins qui venaient gueuler parce que
on avait une passion pour Queen. Alors
on jouait ensemble. On jouait un live de Queen.
Live de Queen à fond et.
Ça plaisait pas trop à la vieille du troisième qui n'aime pas beaucoup les basses.
Ce que je viens comprendre maintenant avec le recul.
Non, attends, on tapait un peu fort, c'est vrai. Et puis bon, voilà. Après, on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte un peu de notre chambre. Et puis on a intégré différents groupes. On a monté notre groupe The Swamp il y a 10 ans. Ouais, on était nous toujours quatre, toujours tous les deux. Et puis on a finalement quand le groupe c'est un peu. Un peu ralenti son activité, on a décidé de continuer tous les deux, de faire ce qu'on aimait vraiment par-dessus tout, c'est-à-dire, enfin en tout cas, au moment où on a commencé Bad Juice, c'est-à-dire nos obsessions du moment qui étaient Buddy Holly, Buddy Holly, des trucs comme ça, on voulait jouer du rock'n'roll un peu original, oui, et puis jouer un peu de blues, des trucs comme ça, et ça donnait Bad Juice tout simplement.
Justement, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur vos influences, hein, vous me disiez que vous aviez été très tôt baigné par la musique qu'écoutait votre père, qui était déjà très ancré dans l'univers sonore américain. Ça a été vraiment vos premières influences, ou est-ce qu'au contraire, vous y êtes revenu par la suite et vous avez d'abord développé des goûts plus personnels?
Moi, je pense qu'on a eu des goûts qui sont développés en réaction, comme tout bon adolescent. Tom s'est tourné vers le métal, moi vers le...
Je suis guitariste, hein, c'est normal.
Moi vers des groupes que mon père détestait, comme les Who ou les Zeppelin, des trucs comme ça. Et finalement...
Ah ouais, c'est des Anglais, hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est des Anglais. Non, mais je parfaitement. C'est des Anglais, ouais. Et puis finalement, bon, on a un peu revenu à certaines choses qu'il aimait lui... Un blues un peu roots, c'est lui qui, c'était dans sa discothèque qu'on a piqué un album de Robert Johnson, ce genre de truc, ouais. On a fini par s'y retrouver un peu dans ce qu'il écoutait, mais et puis lui effectivement il aime bien le rock des années 50 et nous on aime vraiment beaucoup beaucoup ça, donc finalement ouais, on a fini par aller comme tout bon comme tout bon enfant émancipé après l'adolescence, on a fini par admettre que ouais bon il avait quand même bon goût sur certains trucs.
Et j'aimerais bien que vous me parliez un peu plus amplement de ce groupe, de Swamp, qui a quand même sévi pendant de nombreuses années.
Bah, sévi, c'est le mot, ouais. Bah, The Swamp, on était quatre, donc Tom et moi, plus... Il y a eu un peu des changements d'effectifs à la fin. Le groupe vraiment qui s'est stabilisé, c'était avec Xavier et Tristan. Tristan qui joue sur l'album de Bad Juice. Tristan à la basse. On a fait des trucs assez excellents. Pas mal de concerts. On a sorti 3 albums, dont 2 enregistrés à New York. À cette occasion, on a fait quelques concerts là-bas. Et on a enregistré dans le studio d'enregistrement de Matt Vertare, qui est le compère de John Spencer dans Heavy Trash. Et c'était une super expérience. C'était une super expérience de groupe. Bon, il se trouve qu'à un moment donné, pour des raisons, on va dire, logistiques, on va dire le groupe a commencé à moins pouvoir répéter ensemble. Donc ça, c'est un peu... l'activité s'est un peu ralentie. Puis nous, du coup, voilà, on est parti sur autre chose, quoi.
Et par rapport à la musique que vous produisez aujourd'hui, celle de The Swamp était fondamentalement différente ou pas du tout ?
Pas vraiment, parce que surtout sur les 2 premiers albums, c'est moi qui écrivais le plus gros de la musique. Donc finalement, s'il y a une continuité, hein, c'est pas tellement différent. C'était plus je dirais pas punk, mais c'était un peu plus...
C'était plus garage.
C'était plus garage, c'était un peu plus violent que ce qu'on fait maintenant, quoi.
En fait, quand on a fini The Swamp, on a fini sur un album qui était un peu représentatif d'un certain nombre d'influences du groupe. Il y avait un peu de rockabilly, un peu de blues, un peu de cramps, voilà. Et à la fin, quand on est sorti de cet album-là, on savait pas vraiment dans quelle direction le groupe devait aller. C'est-à-dire, est-ce qu'on devait faire quelque chose de plus noise, quelque chose de plus blues, de plus rockabilly. Et je pense que Bad Juice, finalement, c'est la continuité de The Swamp, dans le sens où on a continué à faire quelque... Disons que c'est une voie qu'aurait pu prendre The Swamp et qu'on a continué tous les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de filiation, hein, qu'on peut ressentir clairement.
Et donc, Bad Juice, l'aventure a commencé quand exactement ?
Il y a un peu moins de 3 ans. On a commencé à répéter pour rigoler comme ça tous les deux. Et puis c'était début 2014. On a commencé à dire, ouais, voilà, on joue tous les deux, on fait du blues. Et l'association Genepi nous a proposé de faire un concert en prison avec Thomas Schoeffler Jr. C'était à la prison centrale d'Ensisheim. Et du coup, on a dit, chiche, ouais, on y va. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier concert en prison, c'est original. Mais surtout, ça nous a un peu forcé à sortir du bois, quoi. Mais ouais, c'est là que ça a vraiment commencé. C'était en 2014, ouais, il y a pas si longtemps. Du coup, on a enregistré nos 45 tours l'année dernière. On a enregistré nos 45 tours dans la foulée, on les a sortis l'année dernière. Puis voilà, logiquement, on a enregistré un album cette année.
En même temps, un premier concert dans une prison semble assez logique, parce que vous êtes très Blues Brothers quand même. Hein. Il suffit de voir votre dernier clip, ça fait quand même un petit peu penser à ça. Hein. Je vais pas parler d'aspect physique, hein, je vous rassure tout de suite.
Mais... On peut. On peut, j'assume.
Bah après, on pensait surtout à Johnny Cash quand on l'a fait, quoi.
D'accord, ah oui, forcément.
Mais les Blues Brothers, pour ça, c'est la cravate, c'est tout. Hein. C'est le costard de croque... Ouais, on est habillé en noir et blanc, quoi. C'est le costard de croque-mort, mais... ouais.
Après, on voulait revenir un peu à vraiment à ce rock'n'roll des années 50, où les gars, ils étaient sapés, tout le monde était en costume.
Ils étaient sapés,
voilà, on voulait un peu rappeler ça, quoi. On voulait vraiment que ce soit vraiment la machine à remonter le temps, et que quand on arrive, voilà, ça aurait pu être 50 ans avant, quoi.
Ouais, c'est ce que disaient des gens dans le public, d'ailleurs, pendant nos premiers concerts. Il y avait des gens qui disaient, ah bah, c'est marrant, ce que vous faites, plus personne ne le fait comme ça, quoi. Et donc, effectivement, on a un son qui est un peu vintage. Voilà, on est sapé en costard cravate sur scène. Bon, c'est un peu le décorum. On commence à s'émanciper un peu de ça aussi. On a tombé la cravate.
Et puis le blues, forcément, dans vos influences. Là aussi, quels sont les artistes qui, dans ce domaine, vous touchent le plus ?
Bah Johnny, non, je déconne.
Alors moi, j'aime bien Johnny Lee Hooker, beaucoup. Il y a une artiste qui vraiment m'a replongé dans le blues, c'est Jessie Mae Hemphill. Voilà. ce type de blues, le blues un peu hypnotique, très tendu. Voilà. Ça, c'est les trucs qui vraiment ont commencé un peu à m'obséder à un moment.
Un jour, on a vu en concert Timon Elford.
Ouais, c'est vrai.
Et ça nous a, vachement. Ouais, ça nous a marqué, ça nous a vraiment beaucoup marqué. Et souvent, on essaie de retrouver un peu quelque chose qu'on a vu en concert à ce moment-là. Ouais. Mais c'était lui. Alors, pour le coup, c'était vraiment du blues très très roots. Et c'était assez impressionnant. Moi, ça m'avait vraiment. C'est vraiment un concert qui fait partie des concerts qui m'ont plus choqué, on va dire. Et de là, bon, forcément, il y a toute la panoplie des vieux bluesmen des années 30. Son House, tout ça, ça fait ça, on écoute ça depuis assez longtemps. Ouais.
Cette ambiance Fat Possum Made in Oxford, Mississippi, on la ressent justement sur ce premier superbe album Ding Dong à travers le morceau Bonheur Blues. Est-ce que vous souhaiteriez en parler un petit peu avant qu'on le diffuse ? Non. Alors. Bonheur Blues, pas Bonheur Blues, Bonheur. Comment
Bonheur.
On prononce Bonheur.
Bonheur Blues.
qui veut dire tout à l'heure mais bon, qui est propice au bonheur.
C'est le blues de la Gaule, quoi. Enfin,
On vous en parlait également, hein, vous avez commencé avec deux EP avant d'enregistrer cet album. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler de ces deux 45 tours que je présentais en fait comme un diptyque ?
Ouais, c'est le cas, puisqu'en plus, même les pochettes font un diptyque. Les 45 tours, c'est notre idée du génie commercial. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, plus personne n'a de platine vinyle et plus personne. Enfin, si. Peu de personnes ont des platines vinyle, peu de personnes écoutent des 45 tours.
C'est cher à fabriquer,
ouais. Donc allons-y. Faisons ça, quoi. Non, mais nous, on a une passion du vinyle en général. D'ailleurs, notre album Dingue Dong sort en vinyle. Il se trouve qu'il y a le CD du disque avec. Comme ça, tout le monde est content. Mais à la base, nous, on aime vraiment bien ça. On écoute du vinyle et les 45 tours, c'était un truc qu'on n'avait jamais fait. Ça nous faisait plutôt marrer. Et comme on commençait le groupe, on n'avait pas non plus beaucoup de morceaux. Alors on s'est dit, voilà, on va sortir ça. En réalité, notre idée de départ, c'était de sortir que des 45 tours. C'était de faire... dès qu'on avait deux morceaux qu'on pouvait coller l'un avec l'autre, on sortait des 45 tours. Et puis on s'est rendu compte que c'était un suicide économique. et on s'est dit, non, allez, partons sur un album. Il nous est arrivé déjà, après un concert, d'avoir des gens qui nous disaient, mais pourquoi vous faites des 45 tours? Pourquoi vous ne faites pas de CD? Et toujours, ça nous fait toujours marrer, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est une catastrophe commerciale, le 45 tours. Mais c'est assumé, c'est pleinement assumé.
Aujourd'hui, vous vous définissez comme un hillbilly urban blues two-man band. Certes, mais qu'est-ce?
Alors, en réalité, c'est urban hillbilly blues. Alors, hillbilly blues veut dire littéralement blues de pecno, ce qui veut dire rock'n'roll. C'est notre définition du rock'n'roll. C'est le rock'n'roll, c'est un mélange de musique de blues et de musique et de musique country, enfin voilà, de redneck américain. Donc comme il est peu vendeur de mettre rock'n'roll à côté de son groupe, on s'est dit bah voilà, on va trouver une espèce d'appellation originale qui va un peu éveiller la curiosité des gens. Et ça donne Hillbilly Blues. Et puis Urban, c'était parce que Hillbilly Blues tout seul, ça collait pas. Alors, comme on vit en ville, Urban Hillbilly Blues. Bon, et Two Man Band, c'est parce qu'on est deux. Voilà. Mais c'est ça, ça veut juste dire qu'on est un groupe de rock'n'roll.
Et malgré tout, c'est, vous parliez d'influence garage, hein, que vous faisiez peut-être davantage rejaillir au sein de The Swamp, ouais. Qui est toujours présente malgré tout.
Les chiens font pas des chats. Hein. On continue à faire un peu. C'est vrai qu'on continue, on est toujours à peu près dans la même lignée. C'est vrai qu'il y a, le côté garage, on pourra pas s'en défaire.
Non, puis on aime ça. Enfin, le son du garage, du rock garage, c'est quelque chose qui est quand même qu'on aime pas mal. Donc c'est un peu la modernité de notre
musique. C'est vrai, quand on s'intéresse un peu aux origines du rock'n'roll, il y a beaucoup. On trouve surtout en vinyle. Alors, c'est des compilations de groupes, d'illustres groupes inconnus garage américains qui font d'un excellent rock'n'roll, quoi. Mais avec ce côté un peu déglingué, quoi, que je trouve qu'il manque d'ailleurs actuellement dans la musique quelque part.
Notamment à travers les compilations qui se font maintenant et qui sont élaborées autour de la discographie des Cramps. Des grands collectionneurs, des collecteurs de vieux 45 tours un peu obscurs des USA. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont souvent réunis sur des compilations qui sont assez croustillantes.
Il y a eu ça aussi pour...
J'en ai une d'ailleurs. Je ne sais plus exactement, mais c'est un truc du genre la musique que les Cramps...
Ouais, Tautas.
Ouais, la musique que les Cramps nous ont enseigné, quelque chose comme ça.
Oui, j'en ai aussi des New York Dolls qui aussi avec d'excellentes origines, enfin d'excellents morceaux.
Oui, il y a cette excellente série de compilations qui s'appelle Nasty Rock'n'Roll, Nasty Rockabilly, où chaque... c'est des vinyles, et il y en a vraiment pas mal, hein. Et chaque pochette est une photo porno. On voit une nana en train de faire quelque chose, un organe d'un type, ou de montrer quelque chose qu'elle, voilà. Et c'est vraiment des pochettes absolument épouvantables. Enfin, c'est génial, hein, moi j'adore ça. J'adore ça, et les morceaux qui sont dessus sont absolument déments. C'est du rockabilly, c'est des groupes absolument inconnus. Et ça, c'est vraiment formidable. Je dirais pas que c'est notre source d'inspiration, mais c'est quelque chose qu'on recherche. Ouais. C'est un son qu'on recherche, une identité qu'on recherche. Ouais.
Dans l'intro, j'évoquais également Quentin Tarantino, forcément par rapport au premier morceau, hein, qui ouvre votre album. Alors c'est quoi? C'est vraiment un clin d'œil cinématographique à Tarantino, ou alors c'est plus une passion pour Dick Dale, parce que là aussi on sent une influence surf?
Alors Thomas peut répondre à cette question, parce que en fait le morceau part d'un arrangement qu'il a trouvé, donc je sais pas ce que tu peux dire là-dessus.
Le morceau, en fait, c'est euh, c'est un morceau de liturgie juive. C'est un morceau de la liturgie juive au moment du jour du grand pardon. En fait, c'est le l'office commence avec ce morceau de liturgie et qui est un air. Enfin, la mélodie est fantastique. Et on a eu encore une idée de génie en se disant on va le reprendre, mais on va reprendre cet air et on va le faire à notre sauce. Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tiré d'arrangements d'Yitzhak Perlman, donc c'est au violon. Et pourquoi on l'a arrangé en style surf?
Parce que tu avais l'idée de faire un passage western, en fait, avec.
Voilà.
C'est parti de là. Donc, en fait, c'est le côté western qui a plus influencé.
Mais c'est plus western que. Je dirais que ce serait plus Ennio Morricone que Tarantino. Quoi.
Mais c'est marrant parce que le morceau, justement, auquel je faisais référence de Dick Dale, hein, Monsieur Lou, ouais. qui est très connu, a un peu connu le même parcours que le vôtre. Hein, puisque au départ, je crois que c'est un traditionnel russe. Enfin, plus les éléments exacts en tête. Mais ça part aussi d'un.
Peut-être grec,
tu as raison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, ça part aussi, je crois, d'un morceau religieux. C'est
oui, il a une version d'Avan Aguila qui est aussi un morceau traditionnel juif en musique surf. Et... Ouais. Comme quoi, ça s'y prête pas, ça s'y prête pas mal. Ouais. Mais alors, du coup, ça fait Tarantino dans le sens où Tarantino, étant donné qu'il pille la discographie d'Ennio Morricone, oui, ça fait forcément Tarantino. Ouais. Mm. Donc, effectivement, Ennio Morricone, c'était plutôt Ennio Morricone au départ. Ouais.
L'heure passe, nous arrivons bientôt à la demi-heure d'ailleurs. Vous allez nous offrir d'ici quelques petites minutes une séquence live. Mais auparavant, nous allons passer un troisième extrait de l'album Ding Dong, donc le titre éponyme, comme ouais. Tu me le disais hors antenne. Et là, je crois que vous avez des choses à dire.
Non, mais Ding Dong, c'est un morceau marrant parce que c'est, il raconte l'histoire d'un type qui trouve enfin l'amour après une longue quête parce qu'il trouve une femme qui lui fait des trucs absolument extraordinaires. Et c'est la particularité de cette nana, c'est que ce qui fait son attrait en fait, c'est qu'elle a un pénis, quoi. Un ding-dong, quelque chose qui pend. Donc ça a donné son titre au morceau et son titre à l'album, puisqu'on trouvait que l'album, enfin comme l'album parle quand même pas mal de choses un peu triviales, de la bagatelle, quoi, de cul, hein, faut bien le dire. On trouvait que ça correspondait pas mal au contenu, donc voilà, l'album s'appelle Ding Dong, et c'est pas seulement le son d'une cloche.
Et un petit clin d'œil au Dingling de Chuck Berry, qui quelque part évoque
c'est
quasiment la même chose.
C'est ça, c'est un peu ça, ouais, c'est tout à fait ça.
On se le passe tout de suite.
Never happened to you. She makes me moan, she makes me sweat. While my clothes all tight and wet. That's my drug with no prescription. My little secret like a spy undercover. She's so sweet, she's so fine. The girl's a heat and she works every time. I'm all hooked on what she had. But you gotta try it or you'll never believe. The thing about you gotta do it all. The thing that makes me wanna walk in a pool. The baby just gotta love me to dance, yeah. Baby, come on, come on, love me to dance, yeah. Baby, come on, come on, love me to dance, yeah. Oh, I'm happy, I'm complete. I feel so good from the head to the feet. Things she does, they make me really shout. Well, you know what the fuss is about. First time I felt so nervous. I was a man, then she was my woman. One second, it's all it takes to see the sky falling on your head.
Yeah.
Ils vont le faire sur le 103.5 FM et le www.rdl68.fr. Badgios va vous interpréter deux, voire trois morceaux en live. À commencer par un titre que David va peut-être nous présenter.
Tell Me What I've Done, qui est un morceau de rockabilly assez classique, on va dire.
Allons-y.
Tell me what I've done. Tell me what I've done for you to treat me so bad. I worked hard all through the day, and then I took my own sweet way. The road that leads me right back home to you. And I was quite amazed seeing Joe laying on a bed while you were giving him head. Moved myself out of the room, my heart was soaked with this darkened room. Try to find my little puppy dog. My best friend will bring me joy that I didn't know. Oh boy, you just buried him way down in the ground. Tell me what I've done. Tell me what I've done for you to treat me that way. Come on. I sat down on the porch, holding my bottle of scotch to drown my sorrows in that good old booze. And I felt quite a pain, I realized before I faint, I took the poison you put there for me. Tell me what I've done. Tell me what I've done for you to treat me so bad. Tell me what I've done. Tell me what I've done for you to treat me so bad. Tell me what I've done. For you. To treat me so bad.
Merci. Et on repart sur un morceau, je crois, un peu plus lancinant, qui conclut l'album d'ailleurs.
The Sound of Our Wings.
I heard in town you were way long gone. I heard in town I will stay on my own. Deep in the shadows, far from the sea, a whisper wings beating, you looking for me. In your arms, in your arms. I climb the mountains headed to the sky to hear your voice just saying goodbye. all through the storms, all over the trees. A whisper wings beating, you're waiting for me. In your arms, in your arms. In your arms, in your arms. They're here in town, we're both dead and gone. They're here in town, we'll never be alone. Deep in their heart, they will tell the story. A whisper wings beating, you are looking for me.
Nos invités ont donc gagné dans notre infinie générosité une pause de 4 minutes 20, titre exceptionnellement long pour l'album. On se le passe tout de suite et on en discute juste après. We'll be right back. danse pour continuer l'émission avec nos invités qui sont Thomas et David du groupe Bad Juice. À ce moment-là, en principe, je demande aux artistes quels sont leurs thèmes de prédilection. Je crois que je vais rapidement passer sur la question parce que je crois que tout le monde l'aura compris hein, à l'écoute des titres ou en tout cas également de votre discours. Hein, voilà, c'est des choses qui... Et par contre, là aussi, une facilité d'écriture dans les deux langues. Hein, vous passez très facilement de l'anglais au français. Donc, qu'est-ce qui vous motive afin d'écrire dans une langue plutôt que dans une autre ?
Alors moi, j'essaie d'écrire en français, mais il se trouve qu'on a une règle qui est la suivante. Lorsqu'un morceau renvoie très directement un genre musical très américain, on essaie de le faire en anglais. Si par exemple le morceau est très, très typé rockabilly ou très typé blues, on le fait en anglais. Donc l'album est majoritairement en anglais quand même, de ce fait, de par cette règle. Mais sinon, il n'y a pas de règle précise, mais moi je trouve que c'est toujours plus facile, c'est toujours plus marrant d'écrire dans sa langue. L'anglais, après, c'est un exercice auquel on est habitué, qu'on commence un peu à maîtriser, donc ouais, je me pose pas trop la question. Ce qui est sûr, c'est que je le ferai pas en allemand, quoi.
Et ce disque Ding Dong, donc comment est-il né, quel était son processus de création et de quelle manière s'est déroulé l'enregistrement?
Alors là, ça va être long.
Son processus de création, on a l'habitude d'écrire régulièrement des morceaux, donc on sait pas, les morceaux n'ont pas été écrits spécifiquement pour l'album, on écrit régulièrement. Mais c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, bon, je ne sais plus à quel moment, on va aller enregistrer un album. Donc c'est vrai que là, on a passé la seconde pour finaliser les morceaux, pour être prêt pour les enregistrements. Puis voilà quoi.
Alors, juste un petit bémol, c'est-à-dire qu'à un moment dans le processus créatif, quand on sait qu'on va enregistrer un album et qu'on sait quel morceau on a, quand il manque un ou deux morceaux, on se pose toujours la question de savoir ce qui manque à l'album. Là en l'occurrence il manque un morceau un peu lent, donc on a fait The Sound Over Wings, le morceau qu'on a joué tout à l'heure qui est un peu plus folk. Ouais, c'est un peu comme ça que ça marche. Et pour l'enregistrement, on est parti l'enregistrer à Montebelluna en Italie, près de Venise, au studio Outside Inside Studio, c'est ça. Outside Inside Studio, qui est un des studios qu'utilise notamment, qui utilise le label Vodorism, qui est un label qu'on aime bien, qui sort des disques qu'on trouve plutôt cool, les Juke Joint Pimps, le Révérend Beatman, ces trucs-là, les Monsters.
Monsters, ouais.
Et on s'est dit que ce qui sortait de là avait vraiment un son qu'on aimait vraiment beaucoup, qu'on voulait un peu trouver. Donc on s'est mis en relation avec l'excellent Matt Bordin, qui est le propriétaire du studio, et on a calé des dates. On avait réservé une semaine de studio pour enregistrer l'album, et donc on s'est pointé en Italie avec notre compère Tristan des Swamps, tous les trois, et finalement on est parti au bout de 4 jours.
Voilà. Tout a été bouclé en 4 jours, quoi. Ouais.
Même 3 jours et demi, en fait, si on est vraiment...
Voilà.
Vous n'avez pas souhaité mettre à profit les jours supplémentaires pour...
En fait, Matt Bordin, avec qui on a travaillé, lui considérait que ça devait être plié en 4 jours, ça devait être plié.
En fait, si on l'avait écouté, ça aurait dû être plié en 2 jours. Ouais.
Donc,
c'est un type qui porte la philosophie une ou deux prises maximum, sinon tu perds la spontanéité du morceau. Et vraiment, lui, il porte ça vraiment au maximum de... c'est vraiment son credo, quoi.
Voilà. Ça a été... Nous, on a l'habitude d'enregistrer en live comme ça. Quand on était à New York, on enregistrait tous ensemble. C'était pas instrument par instrument, donc nous c'est quelque chose qu'on affectionne, mais avec lui c'était vraiment bon. L'album est bien, mais c'était l'enregistrement, ça c'était un peu compliqué, quoi.
Mais là, la plupart des morceaux étaient également enregistrés en live.
Tout est enregistré en live. Il y a des morceaux même qui sont
le morceau qui est sur le teaser, donc sur le clip, ouais, qu'on a passé. C'est un morceau qui est pas sur l'album, et c'est un morceau, en fait, tout le monde, c'est une prise, voilà.
Ouais, c'est Baby What's Wrong. Okay. Oui, il y a plusieurs morceaux qui sont en fait des prises entières. En live, on a dû juste rajouter des voix dessus, quoi.
Voilà, ou du clavier, ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc, du coup, c'était un peu. Voilà, c'était un peu tendu.
Un peu tendu, mais bon, enfin voilà, nous c'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est-à-dire que on essaie de retrouver cette manière de faire très old school. Mais lui, c'est vraiment old school. Il voudrait que ça rentre en une fois.
On n'est pas des adeptes de la, disons, de la prise. Bon, ça s'est entendu tout à l'heure. Mais on n'est pas des adeptes de la prise parfaite. C'est-à-dire que pour nous, d'ailleurs, c'était comme ça dans les années 60. Je veux dire, il y a toujours quand on écoute même des disques de Dylan ou des choses comme ça, il y a toujours des pins. Et je trouve que ça donne un peu. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est des êtres humains qui jouent. Quoi. Et c'est pour ça qu'on essaie de retrouver ça. Et en live, il y a toujours, dans une prise, il y a toujours des fautes. Il y en a un qui fait un truc qu'il n'aurait pas voulu faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc,
c'est pas une faute du style, enfin une faute grossière.
Non, c'est
le rythme ou des choses comme ça.
C'est un truc qui accroche. Et quand on est musicien, on veut toujours que sa prise, elle soit parfaite. Et ça apprend un peu l'humilité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au service du morceau. Si la prise, tout le reste est excellent et qu'il y a un endroit où, on n'a pas été au top, bah, tant pis, quoi.
Ouais, si la voix casse à un moment, la voix cassée, et puis voilà, c'est comme ça. Hein,
un côté organique qu'on va peut-être retrouver sur le morceau qui suit, qui s'appelle Cadillac, qui fait forcément référence aussi à votre amour de la culture américaine.
Bah, c'est surtout une reprise de Bobby Dylan, quoi. Ouais,
complètement, j'allais y venir.
qui est un morceau qu'on adore. Et je suis d'ailleurs persuadé que Cadillac ne parle pas de voiture. Mais et nous, on adore Bobby Dylan. Enfin, Tom a une obsession pour Bobby Dylan, mais c'est un mec qu'on aime beaucoup, qu'on écoute beaucoup.
L'occasion de lui rendre hommage, en tout cas, et d'écouter surtout ce morceau, toujours extrait de l'album Ding Dong. Cadillac, reprise de Bo Diddley par nos amis Bad Juice, que nous retrouvons pour conclure cette émission, mais que nous pourrons d'ailleurs retrouver dès la semaine prochaine pour une release partie de l'album, un concert qui s'annonce événementiel et qui se déroulera au Nomatrouf à Mulhouse. Ce sera le jeudi 17 novembre. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de cette soirée?
Bah, c'est notre release partie, donc c'est la première soirée où on pourra a priori mettre la main sur le disque. Bien que une rumeur voudrait qu'on puisse le trouver déjà chez un disque Ramesse, la face cachée, mais bon, voilà. Donc, c'est une release party qui, en plus, se déroulera à l'occasion de la tournée du groupe Left Lane Cruiser, qu'on ne présente plus. Donc ce serait une grosse soirée parce qu'on est, il y a quatre groupes. Enfin, la soirée va s'ouvrir avec Thomas Schoeffler Jr., qui est notre bon ami, on va dire, qui est excellent, comme tout le monde le sait. Et nous, et Shake It Like a Caveman, qui est un one-man band américain également, et Left Lane Cruiser. Et la soirée va être assez longue, je crois. Ça va durer jusqu'à une heure du match, je crois. Et donc,
les gens en auront pour leur argent, quoi.
Ils en auront pour leur argent, et puis je pense qu'ils sortiront éreintés.
Et sourds.
Et sourds, ouais. Donc, nous, on est très, très contents de faire cette soirée. Franchement, on attend ça avec impatience.
Et est-ce que vous aurez un circuit de distribution pour l'album par la suite, pour les gens qui pourraient se rendre sur vos concerts? Est-ce
qu'il y aura des... Alors oui, de toute façon, l'album, on l'aura en concert. On fera même peut-être une petite promo avec un pack avec les 45 tours, pour ceux qui auraient une utilité à les avoir. Non, alors on pourrait les trouver en concert. On pourra aussi les trouver en principe sur le site de Hellprod, qui est un des labels avec qui on travaille, qui fait du merchandising en ligne. On peut le commander sur Discogs déjà, et à la Face Cachée, qui est le disquaire dont je parlais il y a quelques instants, qui vend également à distance. Je crois que l'album va partir dans un réseau de disquaires indépendants de vinyle. Donc on pourra le trouver dans pas mal de disquaires. À Strasbourg, on pourra le trouver chez Log Grooves. Voilà, si vous allez chez un disqueur de vinyle, il y a probablement des chances que vous tomberez sur le disque.
Et outre le concert du Numa Trouve, dont je rappelle la date, hein, 17 novembre, à partir, on a 20h je pense,
20h,
la soirée s'annonce quand même particulièrement longue. Est-ce que vous avez des projets?
Ah non, on arrête après.
c'est le concert d'adieu. C'est la release party et le concert d'adieu.
Ouais, on a une petite résidence dans Savoie à la fin du mois de décembre. Enfin, on va faire quelques concerts à la montagne.
Après, on repart en tournée.
Et après, on repart en tournée en fin janvier. On a une tournée jusqu'en Bretagne. Ouais. Et dans le coin, il est possible qu'on rejoue à Strasbourg fin décembre, juste après Noël. Mais sinon, voilà. Pour l'instant, c'est les dates qu'on a. Ouais.
Le moment est donc venu de vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter?
Bah non, c'était très sympa. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, avoir fait parler de notre œuvre. Merci aussi pour la bière, hein. c'est quand même élégant. rien de plus à dire. Tu as quelque chose à dire, toi?
Non. Merci de nous avoir accueillis. Et puis. On espère voir tout le monde au Numa Trouve.
Si, j'ai quand même une dernière chose à dire. Ouais, s'il vaut mieux boire du whisky que du Bloody Mary, ça laisse moins de tâches. Voilà.
Les Badgios, vous pourrez également les retrouver sur le site de l'émission que vous écoutez actuellement, à savoir sur laroute66.free.fr, puisque notre entretien non censuré, il sera transcrit, ce sera le 611e. Il y aura également un reportage sur l'avenue de ces sympathiques jeunes gens que vous retrouverez, je le rappelle, en concert le 17 novembre au Numa Trouve à Mulhouse, au sein d'un plateau de rêve avec des gens qu'on connaît déjà ici dans l'émission, puisqu'on les a reçus, à savoir Shake It Like a Caveman et Thomas Schoeffler Jr., mais également les excellents Left Lane Cruiser. On se quitte en beauté et en musique, comme il se doit, avec un ultime extrait de l'album Ding Dong, que je vous recommande chaudement. Le morceau est Kids La La La. Est-ce que vous voulez le présenter rapidement?
Ah, je crois que c'est une histoire de cul.
Non, ça change.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est un gamin qui a visiblement très envie de se rapprocher très très près d'une fille. Voilà, c'est l'adolescence, c'est la jeunesse, c'est beau. Merci en tout cas de nous avoir reçus, c'est très agréable.
Et nous continuerons dans le registre de la musique profane la semaine prochaine dans Route 66 sur le 103.5 FM et le www.rdl68.fr. Donc restez à l'écoute. Merci pour votre fidélité. Salut
à tous et à la semaine prochaine, bien sûr.